MIPIM 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Nexity sur Radio Imo.
Et nous sommes toujours à Cannes au salon MIPIM et je ne boude pas mon plaisir. Habituellement, tous les mois sur les routes de France, ils sont côte à côte. Cette fois, je suis entre les deux légendes. À ma droite, Olivier Marin. Bonjour Olivier.
Bonjour Grégoire, très heureux de partager l'antenne et le micro ici, c'est extraordinaire. En plus, l'ambiance est au top.
C'est génial de t'avoir avec nous, Olivier. Vraiment très sympa. Sylvain ?
Oui, mais légende, ça fait vieux.
Non, mais légende...
Donc, avec Olivier, on va te mettre une tête au carré.
Non, mais légende, c'est très flatteur. C'est flatteur et c'est surtout flatteur pour notre invité, Mathieu Descoupes. Bonjour Mathieu.
Bonjour, ça l'est.
Ouais,
très
c'est
impressionné.
Un plateau de choix pour parler un peu de votre action. Alors Mathieu... On va parler d'Emetam, parce que vous vous êtes associé à Emerich pour monter, pour créer Emetam. Racontez-nous tout ça.
Tout à fait. Alors, Emetam, ça veut dire aimer, métamorphoser. Je me suis associé à Emerich, aimer, ériger. Alors, Emetam, c'est le fruit d'une rencontre avec Laurent Dumas, une rencontre d'hommes, et le partage d'une conviction. Il faut savoir que Laurent Dumas, dans les années 90, il est sorti de la dernière grosse crise en créant une société qui s'appelait Transimmeuble. Et Transimmeuble, c'était déjà de la transformation, de la reconversion d'actifs tertiaires en logement. Puis c'est devenu l'acteur qu'on connaît, Emerich est né, le promoteur de référence qui a annoncé ses résultats il y a très peu de temps. Et donc, on s'est vu et on a tout de suite partagé l'idée que ce moment, dans les deux prochaines années, était le moment de fédérer une clientèle d'investisseurs institutionnels pour les orienter vers ces actifs. Ce n'est pas la peine de revenir sur les chiffres, tout le monde les connaît, mais on va en dire deux mots. Ces millions de mètres carrés, 5, 6, qui deviendront 10, 12. Je lisais dans un journal avant-hier qu'il faudrait, rien qu'en Europe, 360 milliards pour rénover ces actifs tertiaires. Et encore, avec le choc qui a été le Covid, avec peu d'espoir de les transformer de nouveau dans des actifs rentables. Donc évidemment, le bureau n'est pas mort, il y a une polarisation, tout le monde la connaît, le quartier central des affaires résiste, fait mieux que résister, mais tout ce qui est dans les franges, et pour autant dans des zones où le besoin d'hébergement est flagrant, c'est ces actifs-là qu'on va aller dans les deux prochaines années chercher grâce à des investisseurs de référence institutionnels qui nous ont fait confiance. On peut parler d'investisseurs comme Beaumont Real Estate qui grâce à son fonds qui a levé 500 millions sur des thématiques autres, avec le trackback qui est leur, puisqu'ils ont réalisé des TRI à deux chiffres en Europe, un des plus gros performeurs dans le value-add ces dernières années, ont choisi de nous faire confiance pour aller chercher ces immeubles-là et puis les transformer majoritairement en hébergement, mais pas que, pour répondre aux besoins de la ville et des territoires et créer de la valeur sur ce qui n'en a plus.
Sylvain ?
Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec Olivier, on se pose souvent la question, parce que avec toi, on va de ville en ville, et on se dit, mais qu'est-ce que font les maires, finalement, de cet immobilier dans lequel ils ont du mal à retrouver une destination. Et en fait, on se rend compte qu'il y a deux difficultés auxquelles ils font face. Ils n'ont plus les moyens de rénover. Donc, ils gèrent un patrimoine local sur lequel ils n'ont pas la marge de manœuvre. Ils n'ont pas réellement envie de le remettre de manière très privée sur le marché ou à la vente ou autre. Et ils sont en demande d'un projet de reconversion, de revitalisation finalement de cet immeuble, de redonner vie à cet immeuble. Moi, je trouve que votre solution, elle s'adapte très bien à cette demande des villes moyennes, des villes, sur justement ce type de problématique. Est-ce que vous êtes orienté sur ce type de problématique également ?
On est complètement orienté sur ce type de problématique. Et j'allais vous dire, la force d'avoir au capital des Emetam 80% Emerich, c'est un promoteur qui existe depuis longtemps, qui est au contact des territoires depuis longtemps, qui écoute les territoires et qui sait leur parler. Que ce soit les filiales Emerich tertiaires et résidentielles, avec les grands professionnels qui les occupent, tous les jours, ils parlent à des territoires, ils comprennent les besoins. Donc en effet, les maires, il faut les écouter. Ils ont en leur possession des outils, mais pas forcément avec la capitalisation nécessaire pour revitaliser tout ça. Donc on peut, nous, venir à côté d'eux, en partenariat, pour les aider à voir, à accompagner leur vision, qui reste la leur, de leur territoire, et en leur apportant par touche cette recomposition urbaine.
Olivier ?
Oui, en tout cas, bravo, on peut vous féliciter, puisque c'est un peu le sens de l'histoire. En prenant un petit peu, vous évoquiez tout à l'heure, en fait, c'est dans le Figaro, Il y a eu cet article sur la transformation, notamment de bureaux en logements. Quand on voit quand même ce qui se passe au niveau de la remise en cause des ZFE, on voit de temps en temps aussi des riverains qui sont hostiles à des nouvelles constructions. On voit même un phénomène au Royaume-Uni où il était question de construire du beau, qui ait du sens, de la densité. Finalement, les Anglais disent « on n'y arrive pas ». Et on va finalement construire des villes nouvelles, 12 villes nouvelles qui vont voir le jour. Donc on peut s'étonner et se dire « mais est-ce que finalement ce genre de choses peut arriver en France ?» Est-ce que ça peut arriver qu'on revienne en arrière et qu'on remette en cause tout ce qui semble être le cours de l'histoire, la régénération urbaine, le recyclage urbain, ces transformations en fait? Qu'en pensez-vous?
Alors, c'est une éventualité, mais je ne pense pas que ce soit le sens de l'histoire en France. Je pense que le déficit structurel de logements et la suroffre structurelle de bureaux fait que vous aurez des épaves, des friches. Et peut-être que, certes, les normes dans certains pays ne nous aident pas, et puis les riverains ne nous aident pas, mais pour un riverain, avoir un immeuble qui, d'année en année, se dégrade, pour un élu, avoir un quartier entier ou tout ou partie dans son centre-ville couvert de panneaux à louer, à vendre, ouais, et un immeuble qui se dégrade,
c'est peu flatteur.
ça n'est pas une marque territoriale d'attractivité, que ce soit pour le tertiaire ou les habitants. Donc on pense, et on le vit, hein, quand on discute avec les élus, on les emmène sur des projets, certes, nous ne sommes pas sur une verticalité, nous ne sommes pas sur des projets, mais des projets dans l'enveloppe, je ne parle pas de transformation dans l'existant, mais des projets au moins dans l'enveloppe et dans le volume de ces bâtiments-là, tels que la loi nous le permet, c'est moins traumatisant pour les riverains. Et aujourd'hui, par rapport à l'équation prix d'entrée, c'est-à-dire prix de valeur d'acquisition des actifs, si tant est que les propriétaires acceptent la réelle valeur des biens, ce qui est un autre sujet, c'est un sujet majeur, à ce moment-là, on arrive à faire du beau et on arrive à faire de la mixité sans l'étalement urbain qui, je pense, sera difficile à réexpliquer après tout ce qu'on a vécu.
On voit une appétence pour cette reconversion des actifs ?
Dans les zones denses, dans les zones tendues, qui sont les zones qui nous intéressent, le foncier est rare. Ouais. Le foncier disponible est rare. Donc, il y a eu une appétence. Il y a quelques années, moi, ça fait 10 ans que je m'intéresse à ces choses-là et ça fait 10 ans que je travaille à ces sujets de transformation. L'équation valeur du bureau, même un petit peu loué, même dégradé, n'était pas compatible en aucune façon avec la transformation de logement dans le volume existant. Aujourd'hui, certes, les expertises sont peut-être un peu élevé pour certains portefeuilles d'actifs, mais on constate des propriétaires qui acceptent la vente, ouais, à un prix qui fait qu'on revient à une charge foncière, on ne parle plus en valeur de mètre carré de bureau, mais en charge foncière, compatible avec la transformation en hébergement. Et c'est le moment.
Bah, je pense que c'est la clé. Hein.
Ah, voilà. C'est la clé.
Bah, c'est la clé. Un effet, à mon avis, qui doit être triple. C'est, à mon avis, il y a 3 conditions pour que ça fonctionne. D'abord, il faut avoir une véritable capacité liquide à intervenir financièrement, donc être solide de ce point de vue-là, donc avoir des instruments de financement. Alors, je pensais à nos amis d'Arkéa Bank qui sont très au fait de ce type d'opération. Je pense que c'est la volonté politique, une volonté à l'échelle du quartier, hein, une volonté politique d'aménagement. Et enfin, un très bon degré d'acceptation d'un projet de renouvellement urbain, de régénération urbaine par les habitants eux-mêmes, par les utilisateurs, par les consommateurs. Et je pense qu'il y a un triple effet. Je pense que sans politique, vous n'y arriverez pas. Et vous le savez, puisque tout est politique dans le logement, on ne cesse de le dire. Hein. Ça, c'est notre position avec Olivier. D'ailleurs, on l'a bien vu. Hein. Valérie Létard s'est battue pour le PTZ. Avec les larges. C'était pas gagné avec Bercy. Résultat, on voit déjà une courbe qui remonte. Donc, il y a dans la restauration, j'allais dire, de la confiance, il y a cet élément. Mais j'ai envie de vous poser cette question.
Je veux juste réagir à ce que vous dites, parce que je me régale. J'ai 3 mots marqués sur une feuille devant moi, 3 conditions d'acceptation, c'est ça. Et en fait, Emetam, c'est exactement ça. Vous avez des investisseurs qui nous font confiance, donc Beaumont, on en a parlé, des institutionnels français. Donc on a pour ambition de pouvoir faire 3500 logements et on est cash. Donc on peut intervenir très rapidement.
Donc vous êtes solide.
Pour
vous soulager. Êtes solide. Non, mais c'est hyper important.
On est solide. On est solide et on n'est pas dans une logique, parce que beaucoup veulent le faire, mais dans des logiques de club deal.
Non, mais solide.
Je signe un dindi et j'achète après.
Et techniquement au carré.
Et j'allais y venir. Deuxièmement, présence d'Emerige, je veux dire, Emerige est le promoteur de la qualité, le restera, avec des équipes techniques, des équipes de programme, des équipes extrêmement pointues sur ces sujets-là. Je rappelle quand même, Emerige, c'est juste le projet Morlan Mixité Capital. Donc en termes de reconversion, de transformation de bureaux en autre chose...
C'est extraordinaire, hein, parce que moi je l'ai vu ce projet. Hein.
Ouais. Ah, il faut le visiter. Il faut le visiter.
Alors c'est très tranché d'un point de vue identité architecturale. Ouais. Moi j'ai trouvé ça un peu massif quand on... De l'extérieur, parce qu'on a gardé aussi les...
Oui, mais regardez d'où on part.
Mais à l'intérieur, quand je vois ce qui a été fait, waouh,
ouais,
on a pris une claque. Hein.
Ah, c'est magnifique, je suis d'accord. Et le troisième condition, elle est extrême. Et c'est-à-dire que beaucoup de gens s'intéressent à ces sujets, vous l'avez dit, Olivier, de se dire, la transformation, oui, les asset managers au bureau disent, ben, on va transformer. Mais ça ne s'apprend pas en 10 secondes. Quand on a été acteur du bureau toute sa vie, être acteur de la transformation, c'est autre chose. Et parler aux élus de ça, parler de ville, parler de transformation, avec tous les problèmes, et on les connaît tous, les problèmes d'équipement pour certaines villes, les problèmes de contestation, les gens qui étaient au bistrot, qui râlaient contre un projet, maintenant ils sont sur les réseaux. Pour un maire, c'est beaucoup d'emmerde. Donc il faut leur apporter la solution, les convictions pour le faire. Et donc, 30 ans de présence sur les territoires d'Emerige, c'est un dialogue de confiance dans la durée et on arrive à parler. Ça, c'est les trois conditions du succès, du cash, de la technique et de l'acceptation, de la connaissance des territoires.
L'adoption, elle doit se faire finalement à tous les niveaux. Sur le plan, j'allais dire, structurel, même quand on voit les players dans cette compétition, ils ne sont pas finalement si nombreux que ça. Pourquoi ça demande trop d'expertise, trop d'ingénierie? On n'a pas l'impression, on reste encore dans les silos. Alors, maintenant, en termes de régénération urbaine, on en parle de plus en plus. Hein, et pour cause, il y a des promoteurs aujourd'hui qui essaient de trouver d'autres relais de croissance, parce qu'ils ont pris quand même une sacrée claque. Il faut quand même savoir que le marché de la construction, juste comme ça, s'est rétréci de moitié en 2 ans. Hein, donc forcément, c'est pas évident. Mais est-ce que ça demande justement une ingénierie différenciante particulière? Est-ce que le fait que vous avez une longue expérience, vous, de votre côté, vous a permis justement de cultiver cette on va dire, singularité par rapport à un promoteur classique?
Alors,
parce que c'est pas le même métier. Hein,
c'est pas du tout le même métier. Et il y a des acteurs qui le font avec une très grande qualité, mais ils sont divers. Un acteur qui est capable à la fois de parler à des financiers, aux gens qui ont l'argent, et donc de flécher l'argent sur ces sujets-là, et un promoteur qui a déjà réalisé, ou un asset manager qui l'a déjà réalisé, il n'y en a pas tant que ça. On va dire que ça se compte sur les doigts d'une main. Il y a des gens exceptionnels, ce que fait FTI chez Action Logement, mais avec avec une logique puriste de transformation dans l'existant, ce qui n'est pas la nôtre. Hein. Nous, on va voir les immeubles tertiaires. Alors, c'est la nôtre en partie. Quand on peut le faire, évidemment, on le fait parce qu'on a ce souci environnemental majeur. Mais on ne s'interdit pas de démolir pour reconstruire parce que on est là pour générer de l'hébergement. Et puis, il y en a d'autres qui sont très forts sur l'aspect technique, mais pas sur l'aspect montage, ingénierie financière et réciproquement.
Olivier, dernière question.
Oui, on a besoin pour construire des logements, d'ailleurs qu'ils soient rénovés, régénérés, recyclés, peu importe. L'important, c'est de loger des gens. On a besoin à la fois d'investisseurs privés. Alors, je sais que Sylvain est bien placé pour le savoir. On réfléchit à un statut du bailleur privé qui verra peut-être le jour en 2026. Encore faut-il s'arranger entre le ministère du Logement et Bercy. On a besoin d'investisseurs privés. On a besoin d'investisseurs institutionnels. Pendant longtemps, on disait, les institutionnels, bah, finalement, le logement, ça ne les intéresse pas. Ça ne rapporte pas. Est-ce qu'il y a maintenant de nouveaux modèles qui sont en place? Est-ce que maintenant, ça intéresse les institutionnels?
La preuve. La preuve, puisqu'à notre capital, on a à la fois de l'investisseur anglo-saxon value-add, à la fois de l'institutionnel français de premier plan, et les deux convergent, soit par intérêt général et l'intérêt de créer de l'hébergement, soit parce que ça marche, et ça marche, et ça va marcher, parce que la valeur d'entrée devient raisonnable, et on a le cycle, on va dire, 2018-2019, où il y avait énormément de liquidités fléchées vers de l'immobilier et de l'immobilier tertiaire, je pense, est terminé. Donc, il faut trouver des relais de croissance. Il y en a d'autres, mais l'hébergement est un relais de croissance. Et on sait par la promotion, donc en remontant le fil du le cours du fleuve un peu plus en amont, créer de la valeur, les TRI qui vont bien, les multiples qui vont bien et les marges qui vont bien, tout en ayant la croissance, tout en ayant la croyance que acheter sans condition, puisque c'est ce que nous faisons chez Métable, un immeuble maintenant, c'est enjamber les prochaines élections, c'est assister au retour progressif des acquéreurs sur les bureaux de vente et du marché et du logement. Donc c'est de la plus-value future, c'est le bon moment.
Je trouve ça excellent.
Parfait.
Excellent, parce que c'est ingénieux, c'est smart. Et moi, ce que je vois, c'est le logement des Français. Moi, je vois ces milliers de personnes, ces 2,5 millions de personnes inscrites sur les listes pour le logement social, ces 4,5 millions de personnes mal logées, ces 350 000 personnes qui sont sans domicile fixe. Et je ne vous parle pas des travailleurs pauvres qui sont obligés de vivre dans leur voiture, et ça, on le voit. Donc moi, je dis que bravo, parce que tout ça ne sert qu'une seule cause. Et c'est ça qui fait front commun entre les institutionnels, notamment, et les acteurs privés qui ont l'argent, qui ont les capacités, parce que clairement, ils cherchent un profit. Mais pourquoi pas si ça permet de loger les Français tous les jours? Moi, je trouve ça remarquable. On vous retrouve sur www.emetam.com pour en savoir plus. Je gage, mon cher Mathieu, qu'on va vous revoir régulièrement sur nos ondes.
Ouais, merci beaucoup, merci, Mathieu, messieurs, pour cet échange. Et merci, Olivier, pour ta présence beaucoup à nos côtés. Merci, on te retrouve.
Quelle fierté d'avoir Olivier avec nous.
Ouais, exactement. Prochaine étape à Auxerre.
Olivier. Et bravo pour ce nouveau modèle.
Je suis à la fois impressionné et comblé. Merci de la pertinence de vos questions.
Merci, Mathieu.
MIPIM 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Nexity sur Radio Immo.